Radio Okapi. Le journal vous est présenté par Gisèle Cage.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal. Voici les titres de l'actualité de ce jour. Appel à la collaboration avec la MONUSCO à Beni. Les jeunes de la commune de Moulekera sensibilisés à cet effet afin de rétablir la paix et favoriser le développement. Le chef du quartier Matembo encourage également la population à tirer parti de la présence de la MONUSCO pour bénéficier des projets de développement. Une crise interne au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Plusieurs conseillers de la plénière accusent leur président de refuser délibérément de convoquer des sessions ordinaires depuis quelques jours. Le vice-président du CESAC rassure que le directoire travaille à réunir les conditions pour organiser une session apaisée dans les prochains jours. La Société nationale de chemin de fer du Congo dans la province de la Tchopo fait face à de nombreux défis opérationnels entraînant la suspension du trafic des passagers entre Kisangani et Ubundu depuis 5 ans. Aloubou Chabani, directeur intérimaire de la SNCC Kisangani, nous en parle dans ce journal. Il est notre invité. C'est tout pour les titres. Commençons tout de suite par cette nouvelle. Dans la ville de Beni au Nord Kivu, le chef du quartier Matembo, dans la commune de Moulekera, appelle la jeunesse à collaborer avec la MONUSCO pour rétablir la paix et favoriser le développement. Jacques Manouko a fait cette déclaration lundi dernier lors du lancement des travaux de réhabilitation du stade des jeunes du quartier Matembo par la MONUSCO. Il a également encouragé la population à tirer parti de la présence de la MONUSCO pour bénéficier de projets de développement. Jacques Manouko et Jean au téléphone par André Kitenge.
Je vais dire à la jeunesse de Beni, particulièrement dans le quartier Matembo, que nous sommes censés collaborer avec nos partenaires de la MONUSCO. À ce qui concerne la sécurité, il faut qu'on collabore avec eux. En matière sécuritaire, la MONUSCO nous dote avec des mobilités dans tous les 4 communes. On a déjà doté nos communes de véhicules pour essayer de renforcer la sécurité de notre ville. Donc, je demanderai aux gens de se lier comme un seul homme avec la MONUSCO pour que nous soyons à paix. En ce qui concerne le développement, moi-même je suis témoin, tant que chef de quartier Matembo, l'aéroport de Beni Mavivi, c'est l'œuvre aussi de la MONUSCO. On a une piste asphaltée à Matembo. Nous avons aussi une route de desserte agricole. Cette route aussi nous aide pour amener les vivres dans la ville de Beni. Aujourd'hui, ils sont en train de réhabiliter notre stade de la jeunesse de Matembo. Ce stade aussi va servir même les jeunes de la ville de Beni.
À Kinshasa, une crise se profile au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, institution soutenant la démocratie. Hier jeudi, plusieurs conseillers de la plénière ont accusé leur président de refuser délibérément de convoquer des sessions ordinaires depuis quelques jours en violation de l'article 35 de la loi organique et du règlement intérieur de l'institution. Dans une déclaration publique, ces cadres du CESAC ont promis de prendre toutes les mesures nécessaires face à ce qu'ils considèrent comme une violation. On écoute Serge Kabongo.
Nous, membres de la plénière, au conseil, nous constatons ces violations répétitives de notre règlement intérieur, mais aussi de la loi organique. Et nous allons nous réunir pour tirer toutes les conséquences, que ce soit réglementaire, tout comme du point de vue du droit. J'aimerais vous rassurer que la question qui est soulevée aujourd'hui au CESAC, c'est une question qui concerne une institution d'appui à la démocratie. Et que les dispositions de notre statut et du règlement nous donnent les mécanismes internes pour pouvoir résoudre nos problèmes à l'interne. L'Assemblée plénière est instituée comme l'organe suprême du CESAC. Il n'y a qu'elle qui peut résoudre tous les problèmes que nous venons de décrier à l'entame de nos cours. Puisque la loi doit être au-dessus des hommes et non des hommes au-dessus de la loi qui doivent penser qu'ils doivent convoquer des sessions ordinaires ou extraordinaires quand bon leur semble.
En réponse, le vice-président du CESAC, Bruno Mbolisson, a affirmé que le directoire travaille à réunir les conditions pour organiser une session apaisée dans les prochains jours. Il a également exhorté ses collègues à éviter toute action pouvant déstabiliser l'institution, surtout en cette période des crises sécuritaires nationales. Bruno Mbolisson.
Il y aura assemblée plénière au prochain jour quand toutes les conditions seront réunies. Il a prévu délibérer. Les amis ont demandé une session extraordinaire avec des sujets dont les contenus ont fait l'objet des entretiens avec des hautes instances décisionnelles. Il nous a été conseillé de faire une trêve, voire tous dans la même direction, parce que le pays est déjà confronté à des défis sécuritaires majeurs. Il ne faudrait pas que le fonctionnement des médias ou le secteur des médias qui est foncièrement sensible soit déstabilisé par des intérêts plus ou moins moyens par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Et nous avons tenu compte de tous ces conseils-là. C'est pas nous sommes en train de travailler pour que les conditions de sérénité soient réunies pour une plénière apaisée.
Dossier signé Blaise Ndongala Mayonda. Contentieux électoral des élections de 2023. La voix de son voix pour le droit de l'homme appelle à la réhabilitation de Madame Docteur Séverine Moliba en tant que députée provinciale de la circonscription de Nsélé à Kinshasa. Lors de sa conférence de presse hier à son siège, la voix de son voix a exhorté les autorités congolaises à mettre fin à la violation manifeste du droit et à respecter les décisions judiciaires. Accompagnée de sa base électorale, la députée provinciale a dénoncé le blocage de la validation de son mandat par l'Assemblée provinciale et a sollicité l'intervention personnelle du président de la République pour faire respecter l'arrêt du Conseil d'État qu'il a définitivement proclamé député élu. Reportage de Jeff Ngoy.
Cadre du regroupement politique ACPA de Gentiline Ngobila, Séverine Moliba déclare qu'elle a été confrontée à une série de décisions judiciaires contradictoires et à des reports répétés de la validation de son mandat malgré toutes les correspondances de plaidoyer auprès des autorités compétentes. Elle explique le contexte.
Proclamée définitivement par le Conseil d'État, après contestation des résultats publiés par la CENI le 21 janvier 2024, en passant par la Cour d'appel Matete, nous en appelons au sens plus élevé de la Cour constitutionnelle de bien vouloir revoir sa décision, laquelle risquera d'écraser la Constitution et le bon climat social et la paix dans la commune d'Insélé.
Le directeur exécutif de la VSV, Rostem Nkenta, appelle à une prise de conscience.
Il y a eu plusieurs plénières programmées et qui ont connu toutes les manigances pour qu'on ne la valide pas. Et enfin, c'est la Cour constitutionnelle qui va malheureusement trancher, mais pas par rapport au dossier qui opposait M. Samba à l'honorable Séverine, mais par rapport à un autre dossier, ce que nous ne pouvons pas comprendre.
Justice pour Dr Séverine Moliba. Seule la justice élève une nation, lance donc la VSV.
Province de l'Ituri, la reprise des activités à l'Institut national d'études et de recherche agronomique de Nioka, INERA, dépend du retour de la paix, selon le responsable de cette institution publique dans une interview exclusive accordée hier à Radio Okapi. De nombreuses infrastructures de base sont délabrées ou détruites par divers groupes armés, ce qui entrave la relance des recherches ainsi que la production agricole et de l'élevage. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
D'une superficie d'environ 12 000 hectares, l'INERA Nioka est aujourd'hui en lambeaux. Le laboratoire de recherche, l'hôpital, la centrale hydroélectrique d'Aoda ne sont plus opérationnels. Et pourtant, il y a quelques années, cet établissement public faisait la fierté de la région. Michel Bofunga est le responsable intérimaire de cette institution.
Ce centre qui a une vocation pastorale et agricole. Aujourd'hui, si les activités sont relancées, l'INERA est à mesure de mettre à la disposition de la population des bêtes et de bonnes races. L'INERA peut mettre des semences de qualité améliorée, permettant ainsi l'augmentation de la production.
Des conflits armés à répétition impactent négativement la relance des activités sur ce site, aujourd'hui à l'abandon, ce qui constitue un sérieux manque à gagner pour les populations riveraines, comme le reconnaît le chef de chevalerie des Pandoro, Arnold Lecoy.
Une grande structure comme l'INERA et encadre un grand nombre de jeunes gens. Tous ces gens sont maintenant livrés au chômage. Tout ce qu'ils faisaient là-bas leur donnait un peu de moyens pour survivre et pour payer les frais scolaires, les frais médicaux. Et malheureusement, maintenant, ils ne peuvent plus tirer profit.
Entre-temps, les regards sont tournés vers le gouvernement pour rétablir la sécurité dans cette région en vue de permettre à l'INERA Nioka de retrouver sa renommée d'antan. Mounia, Jean-Claude Lucky, Radio Cap.
Restons en Ituri, dans le territoire de Mombasa. Le service de l'économie nationale a fixé le prix du kilo de viande de bœuf à 20 000 francs congolais à Mombasa Centre, soit une augmentation d'environ 2 000 francs congolais. Cette situation inquiète la société civile locale qui estime que ce prix devrait être revu à la baisse compte tenu de la conjoncture économique actuelle marquée par le faible pouvoir d'achat des ménages. Le président des bouchers en Ituri justifie cette hausse par l'éloignement des lieux de ravitaillement de bêtes et les tracasseries subies de la part des hommes en uniforme et des groupes armés. Sadiki Aboubakar nous en dit plus depuis Bounia.
Il y a quelques jours, un kilo de viande de bœuf coûtait entre 18 et 19 000 francs congolais à Mombasa Centre. Cependant, la société civile locale dit être surprise d'un communiqué du service de l'économie nationale qui fixe le prix du kilo de viande à 20 000 francs congolais. Un prix qui ne tient pas compte de la conjoncture et du pouvoir d'achat de la population locale, affirme Mungeni Murani, président de la société civile. Par ailleurs, Bagou Makassa, le président provincial des bouchers, justifie cette légère hausse par les longues distances parcourues par les exploitants pour le ravitaillement en bêtes à Mombasa.
Le prix de la viande doit être fixé par les services de l'économie pour que le prix soit officiel. Et à territoire de Mombasa, vous savez que les bêtes proviennent d'une autre province de Haute-Uele pour atteindre Mombasa et Kisangani. Normalement, nous avions sollicité à Mombasa pour être à 25 000. L'économie a dit non. Alors, lentement, comme ça et sûrement, nous a accordé 20 000.
La raison, vous dites, c'est la distance.
La distance, monsieur le journaliste, vous savez, la tracasserie au cours de la route. Vous savez, nos éléments, il fait qu'ériger plusieurs barrières au cours de la route. Malgré les documents que vous avez payé, qui entre au trésor public, mais les gens de la sécurité nous exigent de payer illégalement, nous acceptons.
Rappelons qu'à cause de l'insécurité permanente en Ituri, la plupart d'éleveurs ont déplacé leurs bêtes, notamment dans la province du Haut-Uele. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, les habitants de Kisenso, une commune du sud de la capitale, rencontrent des difficultés pour accéder à l'eau potable. La commune est divisée en deux. Kisenso 1 utilise uniquement l'eau de puits et de forage depuis plus de 10 ans, tandis que Kisenso 2, qui était desservie la nuit, ne l'est plus. Les habitants lancent un SOS au responsable de la régie des eaux. Etienne Olisumbu est parti à leur rencontre. Suivez.
À Kisenso 1, c'est depuis plus de 10 ans que les robinets sont secs. La population ne sait plus à quoi ressemble l'eau potable. Les habitants se contentent de l'eau puisée dans des puits et des forages, malgré eux. Un habitant du quartier Kisenso 1 explique.
Nous peinons pour cette situation de la régie des eaux. Nous vivons grâce à ce forage que nous avons ici. Si tu as l'argent, tu achètes l'eau, mais c'est difficile d'en obtenir car il y a beaucoup de monde.
De l'autre côté, à Kisenso 2, l'eau coulait de robinet. Il y a encore quelques semaines, mais uniquement la nuit. Depuis les inondations, plus rien. C'est le cas à Itikitomessa. Vicky Kanda, son préfet, explique.
Présentement, il n'y a pas d'eau. Auparavant, l'eau de la régie des eaux coulait la nuit et nous avons une citerne qui nous servait de stockage de l'eau. Et l'eau ne coule plus la nuit.
Pour s'approvisionner en eau potable, tous les habitants sont obligés d'en acheter au forage ou au puits. Un bidon de 25 litres revient à 200 francs.
Dans la province du Maniema, le conservateur des titres immobiliers a été préventivement suspendu de ses fonctions, suivi de l'ouverture d'actions disciplinaires. Cette décision a été prise hier jeudi lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs accusations, dont l'attribution des parties celle des domaines privés de l'État pèse sur Jacques Selemani Moké. La mesure du gouvernement provincial fait suite à une recommandation de l'Assemblée provinciale du Maniema. Selon le porte-parole du gouvernement provincial, son intérim sera assuré par le chef de bureau précédent durant toute la suspension. On écoute Willy Ali Kiamassa au micro de Florence Kizalunga.
Il y a eu la 10e réunion du Conseil des ministres extraordinaire sous la présidence de son excellence Monsieur le gouverneur des provinces. Nous avons pris certaines mesures, parmi lesquelles c'est l'adoption des 16 recommandations ici de l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale du Maniema. Entre autres, la suspension du conservateur des titres immobiliers à la personne de Selemani Moké. Le Conseil des ministres a noté que ce conservateur cité, en tout cas, s'est distingué dans les tripatouillages, dans la distribution anarchique de l'OP de terre, même des endroits où il n'y a pas de documents, il a fait des contrats. Et donc, le conseil a levé l'option de pouvoir les suspendre. Et l'arrêté de sa suspension a été signé par son excellence, monsieur le gouverneur des provinces. La deuxième résolution phare, c'est celle qui a consisté à passer à la démolition dans les camps Makuta, particulièrement la partie qui concerne les stades jusqu'à la 7e région. Comme vous l'avez remarqué, c'est toujours l'œuvre de Sérémane Moké. Les particuliers ont érigé des maisons là où il ne le fallait pas, jusqu'à attaquer même les RDG.
Actualité internationale.
Au Kenya, un hôpital de l'ouest du pays est accusé de faire partie d'un réseau international de trafic d'organes. L'établissement accueillerait des étrangers pour recevoir de greffes de reins obtenues illégalement. Toutes les opérations de greffe au sein de l'hôpital Medi-Hill à Eldoret dans l'ouest du Kenya sont suspendues. C'est l'annonce du ministre de la Santé kényan jeudi face aux accusations qui visent l'établissement. L'affaire a été rendue publique en début de semaine par un consortium des médias allemands. Leur enquête rapporte le témoignage d'Amon, un jeune Kenyan de 22 ans. Il explique avoir vendu son rein pour 4 000 $ américains. Mais depuis, il enchaîne les soucis de santé. Ses organes, d'après l'enquête, sont ensuite greffés à des étrangers venus à Medi-Hill pour recevoir leur nouveau rein, moyennant jusqu'à 200 000 $ américains.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui est Aloubou Chabané, directeur intérimaire de la SNCC Kisangani. Il nous parle de défis majeurs auxquels cette société ferroviaire congolaise est confrontée dans la Tchopo. Ces difficultés ont entraîné la suspension du trafic de passagers entre Kisangani et Ubundu depuis 5 ans. Dans cet entretien avec Jacques Moukonkole, il partage les solutions envisageables pour revitaliser les activités de la SNCC. Suivez.
Monsieur Aloubou Chabané, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes le directeur intérimaire de la SNCC Kisangani. Quel est l'état des lieux que vous pouvez établir aujourd'hui, que votre société?
Bon, notre état des lieux actuellement, en tout cas, c'est un état difficile. Du fait que nous avons d'abord un chemin de fer qui a fait déjà plus d'un siècle. On a inauguré ce chemin de fer, c'est depuis 1904. Et jusqu'à aujourd'hui, vous-même, vous pouvez faire des calculs, vous connaîtrez combien d'années ce chemin de fer existe.
Donc c'est depuis un siècle que ce chemin de fer est opérationnel?
Oui, oui, c'est depuis un siècle, c'est depuis l'époque belge jusqu'à aujourd'hui, ce chemin de fer est opérationnel, mais dans un état piteux.
Et comment vous pouvez présenter cet état-là?
Bon, cet état-là, je peux vous donner à travers nos difficultés. Parce que à l'époque, quand tout allait bien, on quittait le matin à 7h, à 15h, vous êtes au Bundu. Maintenant, actuellement, nous faisons 24 à 36 heures pour parcourir 125 kilomètres seulement.
Et là, le train roule à quelle vitesse?
À l'époque, on roulait à 20 à 25 km à l'heure. Mais actuellement, nous roulons à 5 km à l'heure. Si on cherche à dépasser, on déraille. Pour éviter le déraillement, nous roulons vraiment à une petite vitesse. Et c'est pour la machine fait 24 à 36 heures.
Alors, quels sont les grands défis que vous connaissez?
Les grandes difficultés, c'est la vétusté du matériel, la vétusté de la voie. Et si on réhabilite la voie, on réhabilite les locomotives. Et en tout cas, là, nous travaillons comme partout à travers le monde.
Ce sont là les solutions que vous envisagez.
Oui, il faut réhabiliter la voie pour qu'on puisse atteindre une fisque. La vitesse ancienne est de 25 km à l'heure. Et là, on n'avait pas de difficultés. Malgré la quantité de marchandises que nous pouvons disposer, on a des locomotives fiables, on a des wagons fiables, on a la voie fiable. En tout cas, il n'y aura même pas de plainte de la clientèle.
Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de trafic entre Kisangani et Ubundu par train.
Bon, le trafic existe, mais qu'est-ce que nous pouvons appeler trafic? Le trafic, parce que quand il y a des plaintes des clients, il y a des wagons qui font 2 ou 3 mois en gare, parce qu'on ne sait pas les évacuer. On ne sait pas les évacuer par manque de locomotives fiables. C'est là où nous disons, bon, nous faisons semblant de faire un trafic, mais ce n'est pas un trafic selon les normes internationales.
Depuis quand ce trafic connaît de problèmes est suspendu?
Les trains passagers, c'est depuis 2019 que le trafic voyageur a été normalement suspendu par manque de voitures à voyageurs.
Le trafic commercial, le train marchandise, ça existe?
Oui, c'est ce que j'ai dit. Le train voyageur est suspendu par manque de voitures. Mais le train marchandise roule jusqu'à aujourd'hui, mais à petite vitesse.
Et alors, il y a des sites coréens, Mascotte Énergie Construction, qui annonce la réhabilitation de la voirie ferrée Kisangani au Bundu. Comment réagissez-vous à la SNCC?
En tout cas, ça, c'est pour nous, c'est une grande bénédiction. C'est vraiment une très grande bénédiction parce qu'ils nous promettent de moderniser notre chemin de fer. Vraiment, nous disons vraiment merci aux parents célestes d'abord et merci au gouvernement qui est en train quand même de se démener pour penser à la réhabilitation de notre chemin de fer qui s'est gagné au Bundu.
Si cela est fait, qu'est-ce que ça peut rapporter?
Le social, normalement, des Congolais va vraiment toucher vraiment les tops que nous entendons, nous aspirons tous. Parce que quand vous faites 125 km, vous faites plus de 24 heures, plus de 36 heures. Maintenant, ce n'est plus un voyage, ça devient un calvaire. Et c'est ce que nous demandons, que cette histoire-là puisse se matérialiser. Vous quittez le matin, le soir, vous êtes au Bundu sans problème.
L'impact sera certainement d'ordre social et même d'ordre économique.
Carrément, certainement, d'ordre économique et d'ordre social, voire même des crises, même les familles vont quand même augmenter leur état social, va augmenter certainement.
Avez-vous un message?
Bon, le message est que seulement que je peux dire aux autorités qui ont pris l'initiative d'envoyer les Coréens pour réhabiliter les tronçons qui s'en gagnent au Bundu, que vraiment ce projet puisse se matérialiser, car ça sera vraiment le salut pour les Boyomais.
Monsieur le directeur intérimaire de la SNCC, Alou Bouchabani, merci.
C'est ainsi que se termine ce journal sur Radio Capi. À la mise en onde, Pierre Diassinois, à la supervision, Pelé Kipelamondo et à la présentation Gisèle Cage. Merci de nous avoir écoutés. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via les liens disponibles sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez également visiter notre site web à l'adresse www.radiocapi.net. Passez une excellente journée.